Voilà, pour commencer, du coup, créer des ponts dans ce monde perdu, je vous propose, du coup, de prendre un texte. Donc, voilà, on ne prêche pas sans texte, et de prendre un texte, du coup, et parce que cette situation que nous vivons, elle n'est pas nouvelle. Et dans la Bible, du coup, il y a eu d'autres situations comme cela, et du coup, dans Actes, dans le livre des Actes, au chapitre 17, et à partir du verset 16 jusqu'au verset 34, Actes 17, verset 16 à 34, vous invite à prendre vos Bibles, le passage est assez long, j'ai pas mis le texte, du coup, Actes 17, verset 16 jusqu'au verset 34. Donc le livre des Actes, c'est après les quatre évangiles, pour ceux du coup qui ne le savent pas. Donc voilà, c'est un peu facile à trouver. Nouveau Testament, vous passez Matthieu, Marc, Luc et Jean, et vous arrivez sur le livre des Actes, chapitre 17, verset 16 à 34. Je vous laisse le temps de prendre, parce que voilà, comme ça vous pourrez relire les différents passages, je reviendrai pas forcément sur tout. Acte 17, verset 16 à 34. Je commence. Pendant qu'il attendait ses compagnons à Athènes, Paul bouillait d'indignation en voyant combien cette ville était remplie d'idoles. Il discutait donc à la synagogue avec les Juifs et les païens convertis au judaïsme, et chaque jour, sur la place publique, avec tous ceux qu'il rencontrait. Quelques philosophes, des épicuriens et des stoïciens engageaient aussi des débats avec lui. Les uns disaient: qu'est-ce que cette pie bavarde peut bien vouloir dire? D'autres disaient: on dirait qu'il prêche des divinités étrangères. En effet, Paul annonçait la bonne nouvelle de Jésus et de la résurrection. Verset 22, Paul se leva au milieu de l'aéropage et dit: Athéniens, je vois que vous êtes à tous égards extrêmement soucieux d'honorer les divinités. En effet, en parcourant les rues de votre ville et en examinant vos monuments sacrés, j'ai même découvert un autel qui porte cette inscription: à un dieu inconnu. Ce que vous révérez ainsi sans le connaître, je viens vous l'annoncer. Dieu qui a créé l'univers et tout ce qui s'y trouve, et qui est le Seigneur du ciel et de la terre, n'habite pas dans des temples bâtis de mains d'homme. Il n'a pas besoin non plus d'être servi par des mains humaines, comme s'il lui manquait quelque chose. Au contraire, c'est lui qui donne à tous les êtres la vie, le souffle et toute chose. Verset 27. Par tout cela, Dieu invite les hommes à le chercher et à le trouver. Peut-être comme à tâtons, lui qui n'est pas loin de chacun de nous. En effet, c'est en lui que nous avons la vie, le mouvement et l'être, comme l'ont aussi affirmé certains de vos poètes. Car nous sommes ses enfants. Ainsi, puisque nous sommes ses enfants, nous ne devons pas imaginer la moindre ressemblance entre la divinité et ses idoles en or, en argent ou en marbre, que peuvent produire l'art ou l'imagination des hommes. Or, Dieu ne tient plus compte des temps où les hommes ne le connaissent pas. Aujourd'hui, il leur annonce à tous et partout qu'ils doivent changer de vie. Car il a fixé un jour où il jugera le monde entier en toute justice par un homme qu'il a désigné pour cela, ce dont il a donné à tous une preuve certaine en le ressuscitant d'entre les morts. Lorsque les Athéniens entendirent parler de résurrection des morts, les uns se moquèrent de Paul et les autres lui dirent: « Nous t'écouterons là-dessus une autre fois. » C'est ainsi que Paul se retira de leur assemblée. Cependant, quelques auditeurs se joignirent à lui et devinrent croyants, en particulier Denis, un membre de l'aéropage, une femme nommée Damaris et d'autres avec eux. Amen. Premier constat. Avant de décortiquer ce texte, notre société n'est plus chrétienne. Durant ces quelques jours-là, j'ai entendu beaucoup de choses et le CNEF a bien fait de rappeler que notre société n'est plus chrétienne. Je vous ai présenté quelques chiffres que j'ai trouvés, vous pouvez le retrouver du coup sur le site du gouvernement, qui fait le point sur les religions. Alors ces chiffres du coup datent de 2019, donc voilà le temps qu'ils fassent régulièrement. Mais bon, 2019 c'est quand même assez récent. Pour ceux qui ne voyaient pas, je vais décrire pour vous, ne vous inquiétez pas. Alors, du coup c'est la part des religions en France. Alors ce qu'on peut voir du coup c'est que le catholicisme, en fait à la question, finalement à la question et l'étude porte du coup sur chaque concitoyen, est-ce qu'il a une religion ou pas, 48% se déclarent être en lien avec le catholicisme. Aucune religion, ceux qui déclarent qu'ils n'ont aucune religion, 34%. Protestantisme, 3%, dont 1,6% d'évangéliques. Un peu plus de la moitié. Et voilà, on va s'arrêter sur ces trois. Bon, le reste des religions, c'est pas ça qui nous intéresse ce matin. On va parler surtout de la foi chrétienne. Donc, on va parler surtout, voilà, catholicisme, protestantisme, voilà, les mouvances du christianisme et ceux qui n'ont pas de religion, 34%. Est-ce que ça vous surprend ces chiffres ou pas? Alors, ce qui est bien, l'État est, voilà, il y a quand même des gens intelligents, hein, c'est bien. C'est qu'ils ne sont pas arrêtés à là sur cette étude. Parce que dans ces chiffres de personnes qui se disent croire à une religion, il y a les pratiquants et il y a les non-pratiquants. Du coup, ils ont poussé l'étude en disant finalement, voilà, en reposant la question et surtout à ceux qui pratiquent une religion, pour avoir une vision un peu plus réaliste de la situation en France. Parce que c'est pas parce qu'on se dit croyant, non-pratiquant, que du coup ça fait de nous des croyants. C'est soit on est croyant, et du coup on pratique, ça va avec. Mais être croyant non pratiquant, c'est un non-sens. Vous êtes d'accord avec moi? Vous pouvez ne pas être d'accord. Hein. Je vais vous donner un exemple. C'est comme si moi je disais que je suis un grand sportif demain, du coup je vais aller faire les JO. Je suis juste pas pratiquant, c'est tout. Hein. Excusez-moi, c'est tout. Mais je suis un grand sportif. Ça n'a pas de sens. Si on est sportif, c'est qu'on pratique. Sinon, on n'est pas sportif. On peut dire ce qu'on veut, on n'est pas sportif. Je peux dire aussi que je suis astronaute, j'ai jamais marché sur la Lune, je sais pas quoi, mais bon, je peux le dire. Hein. Croyants, c'est pareil. Ceux qui se disent finalement croyants non pratiquants, ce ne sont pas des croyants. Ils vivent dans une illusion qu'ils le sont, mais ils ne le sont pas. Et du coup, l'étude là de l'État va du coup reposer la question. Du coup, à ces différentes branches, protestantisme et catholicisme, parce que finalement, ceux qui n'ont aucune religion, eux, ils n'ont aucune religion, hein. Ils sont clairs. Et du coup, en reposant la question, les chiffres sont plutôt dramatiques. Parmi les catholiques, il n'y a que 6,6% de pratiquants sur les 48%. C'est grave, hein. Parmi les protestants, il n'y a que 1% de pratiquants sur les 3%. Et sur ces 1%, 80% des personnes qui se disent pratiquants dans le protestantisme, ce sont les évangéliques. C'est terrible, hein? Le christianisme en France, du coup la conclusion elle est quand même mortelle, le christianisme en France du coup pèse aujourd'hui, et encore, non pas aujourd'hui, c'est en 2019, la situation s'est peut-être même aggravée, 7,6% de la population. Et on arrive du coup à 78% de la population qui n'a aucune religion. Près de 80%. Du coup, notre société n'est plus chrétienne. Certains pensent qu'elle est chrétienne, ils vivent dans une illusion. Mais la réalité, elle est là. D'ailleurs, la preuve, et ça l'étude ne le dit pas, mais sur plein d'autres sujets, que la Bible parle d'éthique, fin de vie, tout ça, la plupart de nos contemporains, de nos sociétés, ils sont plutôt d'accord sur ce qu'il se fait. Et ça vient conforter, du coup, ces chiffres, comme quoi, du coup, le christianisme, chez nous, est mort. Nos concitoyens refusent Dieu. C'est leur positionnement. Alors, du coup, il n'y a pas... Première leçon à tirer de cette étude, c'est qu'il n'y a pas à s'étonner, du coup, des agissements de notre société. Cela ne date pas des JO. Et si on le découvre pendant les JO, c'est que du coup, on a peut-être perdu le fil. Donc, on peut être choqué, mais il n'y a pas de quoi être surpris. C'est pas la seule chose, d'ailleurs, que la société fait mal. Ça va? Bon, les constats, c'est bien de les faire, mais bon, c'est bien d'avancer. Donc, c'est le premier point. Le constat que notre société n'est plus chrétienne. Malgré, d'ailleurs, même certains hommes politiques, hein, qui veulent retrouver un héritage chrétien, ça, c'est du baratin, hein. Donc, on vit la vie chrétienne ou on ne la vit pas. Deuxième point, des chrétiens indignés. Et là, on va revenir sur le texte. Verset 16. « Pendant qu'il attendait ses compagnons à Athènes, Paul bouillait d'indignation en voyant combien cette ville était remplie d'idoles. » Athènes, à l'époque, c'était le haut lieu de l'idolâtrie et de la débauche. Débauche religieuse, avec une société qui avait de nombreuses idoles. Débauche aussi morale et sexuelle. Les Romains, comme les Grecs de l'époque antique, pratiquaient ce qu'on appelle la pédérastie. Je sais pas si vous savez c'est quoi. Alors, je vais expliquer. À l'époque, du coup, les hommes avaient des relations avec des jeunes garçons. D'ailleurs, c'était honorant. Celui qui le faisait, il était bien vu de la société. Ça date pas d'hier. Du coup, aujourd'hui, tout ce qu'on voit, voilà. Il y avait aussi, du coup, la tendance. Alors, c'était moins poussé peut-être qu'aujourd'hui, mais il y avait quand même quelque chose où on pouvait voir, du coup, une dérive sexuelle avec tout ce qui est, voilà, personnage de la mythologie grecque, hermaphrodite. Donc, un jeune homme qui va devenir homme et femme en même temps. Donc voilà, il y avait toute une pensée, du coup, qui était quand même présente dans la pensée grecque. Ah, voilà, avec plein de dérives dans tous les sens. Et la société de l'Antiquité n'était pas finalement si différente de notre époque. Et ça rejoint d'ailleurs un passage de l'Ecclésiaste qui va dire « Il n'y a rien de nouveau sous le soleil ». Et du coup, tout cela ne va par contre pas laisser Paul indifférent. Paul, il va pas dire « Bon, allez, c'est pas grave, ils sont comme ça ». Le texte va le dire « Paul bouillait d'indignation ». Le texte nous dit qu'il va être indigné de cela, et il y a de quoi être indigné de cela. Du coup, pour nous chrétiens, quand on voit une société, notre société qui fait n'importe quoi, on a raison d'être indigné. Si déjà on n'est pas indigné, c'est peut-être que nous-mêmes on commence à perdre le fil. Et du coup, se reposer les bonnes questions, connaître la parole, ce que Dieu dit, et finalement pour voir aussi ce que la société fait. Paul, lui, bouillait d'indignation en voyant combien cette ville était remplie d'idoles et combien la débauche était grande. Quelle va être sa réaction? Est-ce qu'il va leur dire « Arrêtez, c'est n'importe quoi » Est-ce qu'il va les condamner? Ça, c'est ce qu'on aurait tendance à faire. En disant « Mais vous êtes fous, qu'est-ce que vous faites ?» Il n'aurait pas eu forcément tort. Est-ce que c'est ce qu'il va faire? Ce n'est pas ce qu'il va faire. Cette semaine, d'ailleurs, il y a eu... bon, ça, c'est la chose, moi, qui m'a un peu interpellé, pour pas dire même choqué, voilà, du fait que certains chrétiens, du coup, des fois, sont pas forcément très justes. Il y a eu la porte ouverte de Mulhouse, qui a lancé une pétition pour interpeller Emmanuel Macron suite à cette histoire de cérémonie d'ouverture, en exprimant l'indignation concernant cette cérémonie et que cela ne recommence pas. Est-ce que Paul, il lance des pétitions? Non! Parce que lancer une pétition pour dire à un chef de l'État ou une société « arrête », ça change pas le cœur. Il peut arrêter, hein. D'ailleurs, ils sont tous excusés. Est-ce que ça a changé leur cœur? Non. Du coup, il s'agit ici de réagir en tant que chrétien, pas de parler comme ça, mais de se poser, de prendre l'exemple de Paul. Qu'est-ce qu'il va faire, Paul? Anita, elle a bien parlé, elle a dit « Il va saisir l'opportunité qui lui est donnée, de parler de Dieu. » Parce que s'il y a une chose qui peut changer la société, ce n'est pas de condamner, ce n'est pas de juger, ce n'est pas de faire des pétitions, c'est de parler de l'amour de Dieu. Quand Paul, il voit cette situation à Athènes, il est choqué de ce qui se passe. Mais ce qu'il voit et ce qui le rend plus triste, c'est de voir des hommes et des femmes qui sont perdus. Moi, vendredi, quand j'ai regardé cette scène, c'est ce que j'ai ressenti. J'étais certes choqué, mais je me suis dit, c'est bon. C'est pas une nouveauté. Par contre, j'étais triste pour eux, de voir des hommes et des femmes sans repère quelque part. Perdus. Et où un Dieu d'amour, finalement, qui leur tend la main, mais qu'eux ne saisissent pas. Parce que peut-être qu'ils n'ont pas entendu parler. Et là est notre rôle. Là est notre travail. Troisième point, quelle réaction du coup donc face à ce monde qui court à sa perte? Paul n'a qu'un souci, le salut de tous. Il ne s'arrête pas au blasphème contre Dieu, hein, parce que vous voyez dès le début, qu'est-ce que vont dire les Athéniens, alors qu'ils bout d'impatience, qu'est-ce que cette pie bavarde peut bien vouloir dire? Insultant. Paul, il se fait pas le défenseur de Dieu. Est-ce que Dieu a besoin d'un défenseur? Que nous, chrétiens, on fasse l'avocat de Dieu. C'est nouveau, ça. Les musulmans le font, mais parce que leur Dieu n'existe pas. Mais nous, on n'a pas besoin de défendre Dieu. Jésus n'a pas dit, faites des disciples, surtout prenez ma défense avant. On sait jamais. Si je dors, je sais pas. Ou... Non. Il a dit, faites des disciples. Le Seigneur s'occupe de tout le reste. Du coup, Paul ne s'arrête pas aux insultes que lui lancent des Athéniens. Ce que Paul voit, c'est des hommes et des femmes qui ne connaissent pas le Seigneur et qui sont perdus. Et il voit ici, comme disait Anita, une opportunité de proclamer l'amour de Dieu. Parce que Jésus n'est pas venu pour ceux qui se disent bien portants et pour les malades. Ceux qui n'ont pas de repère. C'est pour eux que le Christ est venu et Paul le sait. Il est seul face à tout le monde. Hein, et il va parler de l'amour de Dieu. La manière dont il le fait, alors accrochez-vous mes frères et sœurs ce matin, parce que là on a lu le texte comme ça, hein, on va voir comment il le fait. Elle doit nous interpeller ce matin. Est-ce que nous, on parle comme Paul a parlé? Avant de parler de Paul, Jésus aura la même réaction. Est-ce que vous voyez dans quel passage Jésus va agir de même? Petite piste. Thomas, il a vendu la mèche tout à l'heure, mais... à la croix, il est crucifié à la croix, Jésus, les chefs religieux, les Romains et même un des brigands crucifiés vont l'insulter et vont lui cracher dessus, en lui disant « Sauve-toi toi-même ». Les Romains vont même écrire un écriteau « Cet homme est le roi des Juifs ». Ils se moquent du Fils de Dieu. Que va faire Jésus? Est-ce qu'il va prier en disant « Ah Seigneur, mon père, foudroie-les sur place, c'est bon, c'est terminé, j'en ai marre ». Il aurait pu, hein. Est-ce que c'est ce qu'il va faire? Qu'est-ce qu'il va faire? Il va dire cette phrase, « Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. » Est-ce que nous, quand on a regardé du coup cette cérémonie, on a été choqués? Et c'est bien d'être choqué. Est-ce que du coup on a dit ça ou on s'est emporté? Est-ce qu'on a eu un regard d'amour ou on est rentré dans tous nos états? Est-ce que, et là je vais aller plus loin, on était chrétien ou on a fait nos religieux, les pharisiens? Les pharisiens, ils aiment bien faire ça. J'accuse personne, hein, mes frères et sœurs, c'est des rappels. C'est bien dans la société de savoir comment on se positionne et du coup de remettre les choses à leur place. Jésus va avoir ce regard de compassion alors qu'il était en train d'être crucifié sur la croix. Et face à ce monde qui fait n'importe quoi, justement, il est en train de donner sa vie pour eux. Est-ce que face à ce monde qui fait n'importe quoi, parce qu'il ne connaît pas le Seigneur et lui refuse, est-ce que j'arrive, moi, chrétien, à avoir de la compassion pour ces personnes qui sont perdues et sans repère? Ou est-ce que je tombe dans la facilité en disant « ce que tu fais, c'est pas bien ». Et c'est pas faux de dire cela. Mais ce n'est pas ça qui change des vies. Ça va? Alors sur ce troisième point, finalement, quelle réaction face à ce monde? J'ai mis un premier point. Le premier point, c'est nouer le dialogue pour proclamer la bonne nouvelle. Nouer le dialogue, c'est difficile, hein, avec des personnes qui sont tellement différentes. Verset 22, Paul, c'est ce qu'il va faire. Je vous lis le verset, hein. Moi, je vous avoue, en creusant, ça m'a un peu choqué. Alors, quand je le lis comme ça, on ne se rend pas compte. Verset 22, il est très choquant. Comment Paul noue le dialogue avec les Athéniens? Athéniens, je vois que vous êtes à tous égards extrêmement soucieux d'honorer les divinités. Paul leur fait un compliment en disant, ah, franchement, vous êtes sérieux dans votre adoration des idoles. Ce qu'il dit, il n'a pas faux, hein. Mais est-ce que c'était nécessaire? Mais parce que Paul sait qu'il faut qu'il noue un contact, il faut qu'il aille au contact. Comme Dieu a su aller au contact de la vie de Paul. Comme le Seigneur a su ce matin, pour chacun de vos vies, venir vous parler, venir vous chercher. Paul fait ça. Il rentre dans le terrain des Athéniens. Ça ne veut pas dire qu'il est d'accord avec ce qu'ils font, hein, attention. Paul, c'est le même qui va écrire aux Corinthiens, cette génération est perverse parce que Dieu les a laissés, a laissé libre cours à leur cœur, et du coup, voilà, les hommes vont avec les hommes, les femmes avec les femmes. Je ne sais pas si vous voyez ce passage, 1 Corinthiens 9. Donc Paul qui condamne, hein, les dérives sexuelles et tout le reste, c'est le même. Il condamne les idoles aussi, c'est le même ici qui va dire... Je vois que vous êtes à tous égards extrêmement soucieux d'honorer vos idoles. On pourrait se dire, mais Paul, il a pété un câble, qu'est-ce qui se passe? Mais Paul va faire comme Jésus. Il ne va pas les accuser en disant, ah, c'est pas bien les idoles, arrête, c'est pas bien. Arrête, sinon je vais faire une pétition, arrête tout de suite. Non, il va trouver un moyen de nouer le dialogue avec eux en leur faisant même un compliment. Il leur dit qu'ils sont sérieux dans leur adoration des idoles, ce qui n'est pas faux. Et puis il va aller plus loin. Il va aller à la rencontre de ces idolâtres. En reprenant des éléments de langage, en reprenant leur code culturel, en reprenant même leur idole. Hein. Attention, vous allez voir, hein, c'est particulier ce qu'il va faire. Il va se faire, comme dit Paul dans Romains, tout à tous. Sans pour autant trahir sa foi en Dieu. Il n'hésite pas, du coup, dans ce passage, à parler de leur idole. Il va apercevoir un autel avec une inscription à un Dieu inconnu. Et il va partir de cela pour leur prêcher l'évangile. Il va même jusqu'à s'approprier deux citations d'un poète, c'est le verset 28 et 29, d'un poète idolâtre grec. Ce poète, il dit ceci. Hein. Alors, selon les versions, vous allez voir, mais moi j'ai une version là qui dit ceci. Alors, il nous a donné la vie, le mouvement et l'être. Mais ce « il », de qui il s'agit ? Il s'agit de Zeus. Et Paul reprend des paroles de Zeus. Dit autrement, Paul dit ceci, de Zeus, nous avons la vie, le mouvement et l'être. Il va dire, voilà, c'est ce que votre poète dit. Il reprend les paroles d'un poète idolâtre. Il va dire après, de Zeus, nous sommes la race. C'est ce que vous croyez, Athéniens. Et il va partir sur ces deux phrases, que Paul ne croit pas, pour faire le parallèle avec Jésus-Christ. En disant finalement, ce Zeus que vous pensez être Dieu, dont il reprend la citation, il va faire le parallèle avec Jésus-Christ, en disant « c'est lui ». C'est lui qui vous appelle. Du coup, Paul, il va pas tout balancer de ce que les Athéniens pensent. Il va corriger, il va rectifier le tir. En parlant le même langage qu'eux. Est-ce que nous, on est capable de faire cela? Moi, ce matin, je vous avoue que c'est difficile. Hein. C'est très difficile. Je prends un exemple concret. Hein. Il y a eu la cérémonie d'ouverture avec les voilà, drag queer, tout ça. Est-ce qu'on est prêt à parler le même langage que ces personnes? Pas parce qu'on y croit, mais pour les rejoindre dans ce qu'ils sont, pour proclamer la bonne nouvelle de l'Évangile. Ça demande beaucoup de choses, hein. De l'amour déjà, beaucoup d'amour. Savoir aussi ce qu'on croit, parce que si on ne sait pas ce qu'on croit, bon, c'est le but c'est pas que ce soit eux qui nous convertissent. Hein, bon. Mais le troisième point, c'est aussi beaucoup de sagesse. Comment parler? Sans se trahir, sans dire n'importe quoi, comment parler? Pourtant, Paul, quand il parle, voilà, quand il prend l'autel à un dieu inconnu, quand il cite ce poète grec idolâtre, parlant de Zeus, Paul ici, il adhère à rien à tout cela. Parce que ce dieu inconnu, ce n'est pas Dieu. Ce dieu inconnu qui était présenté sur un autel, ce n'est pas le dieu que Paul proclamait, parce que le dieu que Paul proclame et que nous croyons, il est esprit. Il n'est pas sur un autel. Pour Zeus, alors j'ai même pas besoin d'expliquer, Paul ne croyait pas en Zeus. Mais il utilise cela pour créer des ponts avec les Athéniens et interpeller leur cœur. Pour nous, c'est un modèle à suivre. Il nous faut trouver aujourd'hui, dans notre société qui se perd, qui ne connaît même pas maintenant la foi chrétienne, hein, 7%. Il n'y a plus rien. Du coup, trouver les mots, trouver les moyens pour rentrer en dialogue avec notre foi et surtout avec leur culture, avec ce que eux sont, pour saisir toutes les occasions, favorables ou non. C'est ce que le CNEF ici a rappelé cette semaine. J'ai bien aimé cette lettre du CNEF. Parce que c'est plus dur de faire cela, c'est plus facile de crier « Ah, oh, c'est pas bien. Oh, j'ai fait des pétitions. » Ça, c'est facile. Mais ça change pas les cœurs. Et c'est bien que le CNEF rappelle finalement, en tant que chrétien, c'est vivre ce que Paul, ici, a vécu. Animé par l'amour de Dieu. Alors, c'est pas facile, hein. Parce que Paul, il va faire ça, tout paraît bien, et pourtant, il va retrouver de l'opposition, même à la fin. Il dit ceci. Car il a fixé un jour où il jugera le monde entier en toute justice, par un homme qu'il a désigné pour cela, ce dont il a donné à tous une preuve certaine en le ressuscitant d'entre les morts. Lorsqu'ils entendirent parler de résurrection de mort, les uns se moquèrent de Paul et les autres lui dirent, ou t'écouterons là-dessus une autre fois. C'est ainsi que Paul se retira de leur assemblée. Paul, il sait parler. Il sait rentrer au contact aux Athéniens. Par contre, il y a une chose qu'il fait bien, c'est qu'il ne déforme pas le message de l'Évangile. Il le présente entièrement et complètement. Il présente l'amour de Dieu manifesté à tous les hommes. Et il présente aussi le fait que Dieu viendra un jour juger les morts et les vivants. Et d'ailleurs, c'est quand il présente cela, avec la résurrection des morts, que les Athéniens commencent à se fâcher. Et Paul, quand les Athéniens se fâchent, il leur dit pas « Ah, excusez-moi, j'ai mal parlé ». Non, non, non. Maintenant que les Athéniens ont laissé la porte ouverte pour que Paul parle, Paul parle. Et quand les Athéniens, du coup, se moquent de lui, qu'est-ce qu'il fait? Il se retire de l'assemblée là où ils étaient. Il s'en va. Lui, il a proclamé la bonne nouvelle de l'Évangile. Maintenant, c'est entre eux et Dieu. Paul parle de tout l'Évangile, même de ceux qui déplaisent. En parlant d'ailleurs, et encore aujourd'hui, hein, c'est deux choses qui déplaisent. Le fait qu'un jour Jésus revienne chercher son Église, et surtout qu'il y ait la résurrection de tous. Tous nous ressusciteront. Pour, du coup, finalement, être auprès de Dieu ou passer sous le jugement. Les Athéniens, ici, vont continuer à se moquer. Paul, lui, va bien réagir. Il se retire, il ne cherche pas à se justifier. Malgré que eux se moquent, il ne cherche pas à défendre le Seigneur. Il sait qu'il a semé ce qu'il devait semer. Et cela va porter du fruit, quand même. Puisque dans l'auditoire, quelques-uns vont donner leur vie à Dieu, notamment Denis et Damaris. Des personnes qui vont accompagner, du coup, Paul et les églises, d'ailleurs, premières églises de l'époque antique. Ça va? Particulier, hein, ce message ce matin, il est un peu il est pratique, mais bon, c'est nécessaire. Alors, pour conclure, on vit dans une société qui n'est plus chrétienne. C'est bien de partir sur des bons constats. Une société qui refuse le Seigneur et qui donc fait ce qu'elle veut. Ce n'est donc pas une surprise à partir de là. Croire le contraire, c'est vivre dans l'illusion. Alors on peut être choqué de ce qui se passe dans notre monde, et c'est normal d'être choqué. En tant que chrétien, ça ne doit pas nous rester insensible. Paul a été choqué. Mais le choc qu'a Paul ne l'amène pas à faire n'importe quoi. Dieu ne nous appelle pas à juger le monde, lui seul le jugera. Ou à dire à ce monde d'arrêter. Ça n'amène rien. Certains, bon je l'ai rappelé, je réinsiste, certains ont fait des pétitions sur ce sujet, notamment Porte Ouverte, bon c'est pas les seuls. Mais pourquoi moi ça me dérange? Le CNEF en plus l'a bien souligné. Parce que du coup on fait des pétitions quand ça nous arrange. Si on fait des pétitions sur ce sujet-là, j'invite du coup tous les chrétiens aussi à faire des pétitions contre tout ce qui ne colle pas dans cette société, tout. L'injustice sociale. Aujourd'hui, il y a plus de riches qui sont de plus en plus riches et plus de pauvres. La Bible en parle de ça. Hein. Dieu condamne d'ailleurs cela. Éthique sur la fin de vie. Alors ça s'est mis en pause, mais c'est un vrai sujet. Dérive du pouvoir politique, non-sens écologique, les guerres, voilà, plein de sujets dont la Bible parle plus que les dérives sexuelles. Et là, les chrétiens, on les entend plus. Silence radio. Par contre, dès qu'il s'agit de sujets où c'est un peu facile de taper, on est là et on parle. Alors on a raison d'être choqué. Mais du coup, qu'on soit cohérent. Sinon, ça s'appelle de l'homophobie, mes frères et sœurs. Hein. Faut pas aller chercher plus loin. Et Dieu ici nous appelle. Alors pourquoi du coup on fait pas de pétition? Parce que sinon on n'est pas sorti ici. Hein. On va en faire à chaque fois. Dès qu'il y en a qui commence à mentir, on va faire une pétition. Lui il a menti, je sais pas quoi. Bon. Non, ce que Dieu nous appelle à faire, il appelle à faire comme Paul. Proclamer la bonne nouvelle de l'Évangile. Aujourd'hui dans notre monde, y compris chrétiens, beaucoup ont perdu l'objectif de parler de Dieu. Et il y a une influence, hein, qui vient surtout des Amériques, avec Trump, Bolsonaro et tous les évangéliques qui sont derrière eux. Et pour nous, chrétiens français évangéliques, il s'agit de pas tomber sur les mêmes choses. Qu'est-ce que font Trump, Bolsonaro et tous les évangéliques qui les soutiennent? Ils vont condamner l'IVG en disant la Bible ne dit que c'est pas bien, ils ont raison, tout en ayant de la haine ou en n'aimant pas l'étranger, en favorisant du coup l'injustice sociale, ça c'est Trump, hein, un non-sens biblique. On vit dans le non-sens. Pour nous chrétiens évangéliques français, on n'est pas des chrétiens évangéliques américains ni brésiliens. Merci Seigneur d'ailleurs. On est un peu plus posé. Merci aussi au CNEF de nous aider dans cela. Mais du coup, il s'agit de revenir à l'essentiel. Nous devons avoir la même réaction que Paul. Cela devrait plutôt nous motiver à avoir du zèle pour annoncer l'évangile à tous ceux qui se perdent en voyant que nous sommes, mes frères et sœurs, nous sommes dans les temps de la fin. C'est une certitude. Nous sommes dans les temps de la fin. Et du coup, notre motivation, c'est de parler de Dieu. En reprenant les éléments de langage de nos contemporains qui se perdent, leurs codes culturels, pour créer des ponts, comme Paul a su le faire. Ne soyons pas timides d'assumer le message de Jésus-Christ, Jésus-Christ mis en croix. Alors que le système de ce monde assume haut et fort ses idéologies, entendons les cris du cœur, leur quête d'identité, d'appartenance, voilà, ils sont en recherche de quelque chose. Mais montrons-leur, nous, chrétiens, comment crier plus haut vers celui qui les invite tous à sa table et offre la vraie réconciliation, l'identité et l'appartenance véritable. C'est le message que nous avons. Un message qui bouscule des vies, qui est capable de transformer une société, comme à l'époque de Rome. À l'époque, quand Paul écrit, la société romaine, elle n'est pas chrétienne. Et ils vont devenir chrétiens. Alors, l'État, mais alors pas tout le monde après, mais quand même. Que nous puissions être des gagneurs d'âme ce matin. Amen. Et puis je conclurai du coup avec ce verset, un très beau verset de Paul. Non. Alors Jean 18, alors avant, tu peux laisser. Jean 18, verset 36, alors c'est Jésus qui parle. Un rappel pour nous. Mon royaume n'est pas de ce monde. Si mon royaume était de ce monde, mes serviteurs auraient combattu pour moi afin que je ne sois pas livré aux Juifs. Mais en réalité, mon royaume n'est pas d'ici-bas. Jésus nous dit quoi? Ça sert à rien de combattre ici-bas. Et Paul va dire ceci, j'aime bien ce passage de Paul. 1 Corinthiens 9, versets 20 à 23. Mes frères et sœurs, j'espère que ce matin, moi je me le dis à moi-même, que nous puissions dire ce que Paul dit là. J'ai voulu devenir le serviteur de tous. Paul emploie le terme même doulos, esclave de tous. J'ai voulu devenir l'esclave de tous pour gagner le plus de gens possible. Avec les juifs, je vis comme un juif, pour gagner les juifs. Avec ceux qui obéissent à la loi de Moïse, j'obéis à la loi pour gagner ceux qui lui obéissent. Pourtant, je ne suis pas obligé d'obéir à cette loi. Avec ceux qui ne connaissent pas la loi de Moïse, je vis comme si je n'avais pas cette loi pour gagner ceux qui ne la connaissent pas. Pourtant, j'ai la loi de Dieu, puisque j'obéis à la loi du Christ. Avec les chrétiens fragiles, je vis comme si j'étais fragile, pour gagner ceux qui sont fragiles. Je me donne entièrement à tous, pour en sauver sûrement quelques-uns. Et tout cela, je le fais à cause de la bonne nouvelle pour participer à ses richesses. Et Paul, ici, répond au commandement de Jésus, faire des disciples. Est-ce que nous sommes prêts, mes frères et sœurs, ce matin, à être aussi zélés que nous sommes choqués? Que nos stupéfactions, finalement, produisent du vrai fruit. Pour que ce monde voit que nous sommes différents. Eux, ils sont différents. Ils sont choqués, mais la réaction, elle est différente. C'est ce que ce monde doit voir. Que Dieu nous aide. Que Dieu nous aide. Courbons nos têtes un instant.